Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Le SMIC augmentera de 35 euros le 1er octobre. C'est la conséquence de la hausse des prix. Fabien Cazot nous explique dans un instant. Nouvelle alerte aux pluies et inondations. 5 départements, dont le Gard et l'Hérault, en orange. Dans le Gard, la personne portée disparue hier a été retrouvée vivante. L'obligation vaccinale entre en vigueur aujourd'hui pour près de 3 millions de professionnels, hôpital, maisons de retraite, pompiers et autres. Martine travaille dans un centre d'action sociale. Non vaccinée pour l'instant, elle repousse l'échéance.
Toutes mes prestations sont arrêtées, je ne travaille plus. Heureusement, j'ai des congés, donc ils nous ont accepté nos congés. C'est sûr que les nuits sont pas toujours très simples.
Alors, qui contrôle la vaccination? Nous verrons cela. Messi, Neymar, Mbappé, la triplette de stars attendue sur le terrain pour l'entrée du PSG en Ligue des Champions. Paris joue ce soir à Bruges. Le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse est-il d'utilité publique? Consultation à partir d'aujourd'hui. Les opposants sont mobilisés. Nous serons avec Charlotte Mijon du réseau Sortir du Nucléaire. À 13h30, notre invité est le meilleur maire du monde. C'est la récompense reçue hier par le maire de Grigny, Philippe Rio. Comment administrer l'une des villes les plus pauvres de France? Quelles solutions? Quelles idées nouvelles? Intervenez si vous le souhaitez, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Nous sommes mercredi, il y aura la sélection cinéma de Corinne Pellissier, évidemment. Quand un peintre s'installe chez ses mécènes et les tyrannise, ce sera le vif de l'histoire alors qu'une expo Soutine de Kooning s'ouvre à Paris. Et au micro de Frédéric Pommier, le comédien et réalisateur Sam Carman nous parle d'une chanson de jazz. Connaissez-vous Pauline Anderton? Eh bien, vous la découvrirez. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est une première depuis 10 ans. Le salaire minimum, le SMIC, va augmenter dans un peu plus de 15 jours. 1er octobre, il passera de 1555 à 1589 euros bruts par mois. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Le SMIC augmente parce que les prix augmentent.
Et parce qu'ils augmentent sensiblement, plus 2,2% depuis novembre dernier. C'est plus de 2% et dans ce cas, c'est le Code du travail qui le dit. Le SMIC doit augmenter d'autant. Il peut aussi augmenter d'avantage. Si le gouvernement décide, il consultera en fin d'après-midi un groupe d'experts sur la question, 4 économistes et un sociologue. Un groupe présidé par l'économiste Gilbert Sept, mais à l'entendre, sauf surprise, il faudra s'en tenir à 2,2% d'augmentation.
Dans nos précédents rapports, nous avons recommandé de ne pas aller au-delà des revalorisations automatiques. Nous avons recommandé de façon continue d'améliorer le niveau de vie plutôt par des mesures qui ne pèsent pas sur le coût du travail, comme par exemple la prime d'activité, qui a augmenté considérablement en 2019.
Donc à vous entendre, vous n'allez pas recommander cet après-midi qu'on aille au-delà des 2,2% automatiques.
Absolument. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que ce mécanisme automatique singularise la France. La France est le seul pays avancé dans lequel il y a un mécanisme automatique d'ajustement du SMIC sur l'inflation.
Le groupe d'experts se réunira donc avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, cet après-midi à 18h30. L'augmentation devrait donc se limiter, si la formule automatique de calcul est appliquée, à 35 euros bruts par mois.
Et à propos de hausse de prix, celui du litre de sans-plomb a pris 20% en un an. Il retrouve progressivement ses niveaux d'avant-crise sanitaire, 1,56 € le litre de sans-plomb 95. Le gouvernement réfléchit à une mesure pour compenser globalement la hausse du prix de l'énergie, carburant mais gaz aussi. Et les détails sur le SMIC, vous les retrouvez sur franceinter.fr. Jour J, c'est aujourd'hui que près de 3 millions de professionnels, 2 700 000 précisément, doivent être obligatoirement vaccinés pour exercer leur métier. Au moins une dose, ce sera schéma vaccinal complet obligatoire le 15 octobre ou la preuve d'une contre-indication ou d'une contamination récente au Covid. Cela concerne les fonctionnaires des hôpitaux, les personnels des maisons de retraite, les soignants libéraux, les pompiers, les aides à domicile, les ambulanciers. À partir d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas à jour, ils risquent la suspension de leur contrat de travail et suspension du salaire qui va avec. Les personnes dans ces cas-là sont ultra minoritaires. Mais question, étant donné le manque d'effectifs dans les hôpitaux et les maisons de retraite en particulier, quelques pourcents de soignants manquants peuvent-ils désorganiser des services entiers? On verra cela dans les jours à venir. Martine, elle, est auxiliaire de vie au Centre communal d'action sociale de La Rochelle, non vaccinée. Elle a posé des congés pour repousser l'échéance avec une pointe de culpabilité.
C'est très difficile aussi pour moi d'accepter parce que je sais que justement la charge du travail va revenir à mes collègues et par rapport à mes bénéficiaires que j'aime. J'adore mon métier et vraiment c'est avec regret que j'arrête. toutes mes prestations sont arrêtées, je ne travaille plus. Heureusement, j'ai des congés, donc ils nous ont accepté nos congés, tous les congés qu'on avait, quoi. Donc, c'est sûr que les nuits ne sont pas toujours très simples. Au sujet de l'avenir aussi. Après mes 2 mois, là, je ne sais pas si je reviendrai au CCAS. Franchement, je me pose la question. C'est mon choix, je ne sais pas si mes collègues me comprendront. Certaines, je pense que non. On m'a parlé d'immunité collective. Je ne participais pas à l'immunité collective. Voilà.
Propos recueillis par Lise Dussault de France Bleu La Rochelle. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Alors il y a ceux qui refusent ouvertement et puis au-delà de ces cas, comment le respect des règles par les professionnels va-t-il être contrôlé?
Dans les établissements médico-sociaux comme les hôpitaux ou les EHPAD, c'est l'employeur qui doit contrôler le respect de l'obligation vaccinale. S'il ne le fait pas, il encourt des amendes de 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales. En ce moment, dans les hôpitaux, les services de santé au travail sont donc très sollicités. Car c'est eux qui s'assurent que les infirmiers, médecins ou même agents administratifs sont bien en règle. Ils collectent donc les certificats de vaccination, de rétablissement ou de contre-indication. En l'absence de ces documents, les salariés non vaccinés sont suspendus.
Et comment cela va-t-il se passer pour les professionnels de santé en libéral ?
Là aussi, il y aura des contrôles. Ça concernera aussi bien les médecins généralistes, les infirmiers libéraux que les podologues, etc. Les agences régionales de santé auront accès à la liste des soignants non vaccinés. Un courrier sera envoyé pour informer les praticiens de leur interdiction d'exercer. Concrètement, pour les professionnels conventionnés, ça veut dire qu'ils ne percevront plus les remboursements de leurs actes par l'assurance maladie. Et dans 30 jours, le 16 octobre, si les professionnels de santé ne sont toujours pas vaccinés, des procédures disciplinaires pourront être engagées, pouvant aller jusqu'à la radiation.
Et pour ceux qui essaieraient de contourner les règles, un arrêt de travail par exemple, le ministre de la Santé prévient, le refus de se vacciner ne doit donner lieu à aucun arrêt maladie. Olivier Véran dit cela, il y aura des contrôles, précise-t-il, pour toute prescription suspecte. Isère, Drôme, Ardèche, Hérault et Gard. À nouveau, 5 départements sont en vigilance orange, pluie, inondation, orage. Et c'est évidemment le Gard qui retient l'attention après le déluge d'hier. Une hydrologue résume ce qui s'est passé hier avec cette formule. Par endroit, il est tombé le contenu d'une baignoire par mètre carré. En début de matinée, 1500 foyers restaient privés d'électricité, secteur de Vonnage, Nîmes, Costières-Sud et Petite Camargue. Bonjour Romane Porcon.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter dans le Gard. On évalue, Romane, les dégâts depuis ce matin. Alors à Calvisson, à Saint-Dionysie, au Bord et autres communes sinistrées. La bonne nouvelle tout de même, c'est qu'un monsieur disparu depuis hier à Aimargues a été retrouvé vivant. C'est là que vous êtes. Les secours cherchaient aussi une femme. Des témoins avaient entendu des cris près du cours d'eau, le Rhône. Eh bien, elle aussi a été retrouvée, Romane.
Oui, et les recherches ont donc cessé. Les équipes de sauvetage en eau vive restent sur zone en cas de nouvelle disparition. Pour le moment, plus personne n'est porté disparu dans le secteur. Le commandant Christophe Marin-Talon est responsable de la zone des Margues.
On a, avec la gendarmerie, recoupé les informations. Il se trouve que dans la borne horaire à laquelle on avait entendu ces cris, dans la demi-heure qui a suivi, on a réalisé un secours au moyen d'un hélicoptère. Et il s'avère que ça correspond à la personne qui avait fait appel au secours.
Et c'est donc un énorme soulagement, vous l'imaginez, pour les équipes de secours, pour aussi Philippe Canizares, élu sur la commune de Caillard et également pompier à Nîmes. C'est lui qui a entendu les cris de cette femme hier soir au bord du Rhône.
J'ai entendu en fait une voix qui me disait au secours, appelez les pompiers pour me sauver. Voilà, je l'ai entendu à 2 fois. J'ai vu une silhouette par 2 fois, mais que j'ai plus vu après. J'ai tout déclenché par le biais du CODIS, du 112. Moi, dans mon rôle d'élu, dans mon rôle pompier, et rien que d'être humain, en fait, d'entendre une personne et pas pouvoir aller la chercher, ça tord les boyaux. Moi, physiquement, je pouvais rien faire, donc c'est pour ça que j'ai appelé tous les collègues. Mais je reste un peu avec les larmes aux yeux encore. Toujours, voilà, je reste toujours avec l'idée de peut-être pas avoir fait ce qu'il fallait, j'en sais rien.
Et finalement, c'est bien le témoignage de Philippe qui a permis donc hier soir l'élitreuillage de cette femme qui se trouvait donc en difficulté dans un champ inondé.
Et donc la crainte de nouvelles intempéries, cette alerte orange dans 5 départements, on fait un point avec Météo France à la fin de ce journal. Voilà un dossier ouvert il y a une 30aine d'années, enfouir très profondément les déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. 30 ans que le projet suscite contestation, expertise et contre-expertise. Il passe un nouveau cap aujourd'hui, une enquête publique est lancée pour dire s'il y a une utilité publique. public à ce projet. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Comment va se dérouler cette enquête?
Eh bien, elle va durer un peu plus de 5 semaines jusqu'au 23 octobre. Tous les Français peuvent donner leur avis sur ce projet. Il vise à enfouir, je vous le rappelle, 85 000 mètres cubes des déchets les plus radioactifs du parc nucléaire français à 500 mètres de profondeur. Pour s'exprimer, il y a des registres disposés dans 16 mairies à Bure et dans les communes voisines. Il y a aussi Internet sur un registre numérique. L'enquête publique est conduite par une commission d'enquête indépendante. Ses 5 membres ont été désignés par le tribunal administratif de Nancy. Cette commission remettra son rapport fin novembre avec un avis favorable ou défavorable, mais c'est au Premier ministre de prononcer la déclaration d'utilité publique, autrement dit de décréter si le projet Cigéo est d'intérêt général. Pour autant, cette DUP ne marquera pas le coup d'envoi du chantier. L'autorité de sûreté nucléaire a le dernier mot sur la construction de Cigéo. Le gendarme du nucléaire se prononcera au terme d'une autre procédure, la demande d'autorisation de création. Celle-ci va prendre entre 3 et 5 ans.
Bonjour Charlotte Mijon. Du réseau Sortir du nucléaire parmi les opposants déterminés à ce projet et même à cette enquête d'utilité publique, vous y êtes opposé également?
Nous, ce que nous voulons souligner, c'est que alors que commence cette enquête, justement, cette enquête publique, les risques très très importants que comporte le projet qui ont été pointés par l'autorité environnementale qui a repris elle-même les critiques exprimées par les opposants depuis des années, eh bien ces risques-là n'ont toujours pas reçu de réponse. C'est-à-dire qu'on commence une enquête publique sur un dossier sur lequel il y a d'énormes interrogations, alors même que depuis des années ces questions ont été posées. Donc il y a vraiment un problème.
L'enquête d'utilité publique, c'est l'occasion de justement mettre en avant ces arguments et d'en parler, puisque tout le monde doit avoir la parole.
Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, les arguments des opposants, qui ont été repris même par l'autorité environnementale, ça fait des années et des années qu'ils sont exprimés, et ça fait des années et des années que jamais on ne leur accorde attention, ça fait des années et des années que des débats publics se succèdent, alors que la décision est considérée comme étant sur les rails.
Du coup, vous allez boycotter ?
Le problème, c'est que cette enquête publique, elle apparaît comme une pure étape réglementaire qui n'a pas vocation à freiner la marche du projet.
Mais vous allez y participer tout de même ou vous allez la boycotter en estimant que de toute façon vous ne serez pas entendu? Alors qu'en principe, voilà, tout le monde est entendu, il y a une commission indépendante nommée par un tribunal administratif. Est-ce que vous allez y participer malgré tout à cette consultation?
Le réseau Sortir du nucléaire n'y participera pas. Un très grand nombre d'associations qui sont extrêmement lassées de s'exprimer dans le désert et de voir se succéder les débats publics pour que jamais leur avis ne soit réellement entendu et que ça ne fasse changer le cours des choses, n'y participera pas non plus. Effectivement, oui, on peut toujours participer sur Internet, donner son avis, mais est-ce que ces remarques seront réellement entendues et prises en compte? On peut en douter. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un délai extrêmement court entre la durée de cette enquête publique, le moment où les commissaires enquêteurs devront rendre leur avis, et celui où le projet sera déclaré.
Le débat n'a pas le temps d'avoir lieu, c'est ça que vous nous dites.
La question, ce n'est pas que le débat n'a pas le temps d'avoir lieu, la question, c'est juste que la décision semble d'ores et déjà prise.
Sur le fond du projet, juste Charlotte Mijon, sur le fond du projet, l'argument de ceux qui sont favorables à ce projet d'enfouissement des déchets, c'est qu'en l'état actuel des connaissances et de la filière nucléaire, bon, il y a des déchets, qu'on ne sait pas faire disparaître la radioactivité et que les enfouir profondément est la moins mauvaise des solutions. Qu'en dites-vous ?
Le problème, c'est que le projet qui est actuellement sur la table, il présente des risques importants qui sont liés à sa conception même. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque d'incendie souterrain, il y a toujours des rejets en surface qui pourraient être importants du fait même de la conception du projet, il y a toujours cette impossibilité de récupérer les déchets en cas d'accident. Donc ça veut dire qu'on se précipite pour construire un projet présente toutes ces lacunes. Alors même que la question à se poser, avant de se dire il faut faire ça, les déchets ils sont là, c'est de se poser la question de la production de ces déchets. Des déchets qui vont rester dangereux pour des durées qui dépassent celles des civilisations humaines.
Et la garantie apportée par l'autorité de sûreté du nucléaire, qui aura le dernier mot, nous expliquait Sandy Dauphin, ça ne vous suffit pas ?
Pour l'instant, l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas donné son feu vert. Donc, on ne peut pas dire qu'elle donne sa garantie. D'ores et déjà, elle a soulevé des problèmes. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a soulevé les problèmes dont je vous ai parlé, oui. Notamment de risque d'incendie souterrain. Ces risques-là ne sont pas réglés. L'enquête publique s'ouvre actuellement. Au train où vont les choses, si ça se trouve, le projet pourrait être déclaré d'utilité publique alors que des interrogations énormes subsistent. Donc là, on se retrouve face à un énorme problème.
Encore une question. En l'état actuel des choses, les déchets sont stockés en surface à La Hague. Ça vous semble préférable de stocker des déchets en surface plutôt que de développer ce projet à Bure ?
Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce projet à Bure présente des risques considérables.
Mais vous ne répondez pas à ma question.
Écoutez, moi, ce que je pense, notre organisation ne souhaite pas se prononcer sur ce qu'il faut faire de ces déchets, car elle n'a pas envie de cautionner la poursuite de la production de ces déchets.
Et en même temps, ils sont là. Il faut bien trouver une solution.
Alors, on dit ils sont là, mais je voudrais attirer l'attention sur un point, c'est que à l'heure actuelle, on s'apprête à relancer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDF a dans les tuyaux 6 nouveaux EPR pour lesquels il n'y a pas de place dans Cigéo pour l'instant. Ça veut dire que on s'apprêterait donc à devoir construire en plus un nouveau site. Donc cette question de la production de ces déchets, oui. Décider d'arrêter de les produire, prendre cette décision, c'est un préalable à un débat sain et un débat apaisé sur les déchets radioactifs.
Merci Charlotte Mijon. Réseau sortir du nucléaire alors que commence cette consultation sur l'utilité publique du projet d'enfouissement des déchets à Bure dans la Meuse. Et merci à Sandy Dauphin qui m'a aidé à préparer cet entretien. En Afghanistan, le pouvoir taliban met en place sa chape de plomb au fil des semaines. Le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait du respect des droits fondamentaux une ligne rouge, droits des femmes et des filles en particulier. Valérie Krova, les premières mesures prises sont au-delà de cette ligne rouge.
Un rideau pour séparer les filles des garçons dans les universités privées où la non-mixité est désormais de rigueur. Des étudiantes contraintes de porter un niqab, un voile intégral, si elles veulent aller en cours. Les premières mesures édictées au nom de la charia font craindre ce que le monde entier redoutait, un retour en arrière. Des inconnus demeurent néanmoins. Les femmes pourront-elles sortir sans être accompagnées d'un homme, de leur famille, comme c'était le cas dans les années 90? Les fondamentalistes n'ont pas encore établi de règles en la matière. Pour ce qui est du sport, les talibans ont laissé entendre que seuls les hommes pourraient en faire. La pratique d'une activité sportive est difficilement compatible avec les exigences vestimentaires imposées aux femmes dont le corps et le visage devront être couverts. Quant à la musique, interdite lors de leur premier passage au pouvoir, elle devrait l'être aussi en 2021, car elle est contraire à l'islam, selon le porte-parole des talibans à Kaboul. Les artistes afghans ont déjà pris les devants, certains se cachent pour jouer de leurs instruments.
Et l'histoire dans l'histoire, les jeunes filles de l'équipe de football d'Afghanistan junior sont arrivées au Pakistan. Elles avaient tenté de fuir dès la mi-août, mais l'attentat du 26 août près de l'aéroport de Kaboul les avait alors empêchées de fuir. Alors on ne comparera pas une demi-seconde ces jeunes filles afghanes et les stars qui se sont pressées lundi soir sur le tapis de cérémonie pour le gala du Met, le musée de New York. Soirée people particulièrement courue, au cours de laquelle une tenue a jeté un malaise. Kim Kardashian recouverte de noir, des pieds à la tête, dans le contexte actuel en Afghanistan, énorme faute de goût ou soutien aux femmes afghanes, le mystère reste entier. Quand elle est élue de New York, figure de la gauche américaine, Alexandria Ocasio-Cortez, elle s'est fait remarquer avec une tenue très politique. Résumé de cette soirée avec vous, Rémi Brancato.
Oui, cette robe slogan portée par la figure de la gauche du parti démocrate taxer les riches a fait beaucoup parler. C'est une référence au débat actuel au Congrès américain sur la réforme fiscale. Les réactions ont afflué, les critiques pointent la contradiction entre le prix d'entrée au gala du Met, $35,000, et ce slogan. Alexandria Ocasio-Cortez a aussi précisé qu'elle n'a pas payé, elle était invitée en tant qu'élue. Elle a aussi voulu mettre en avant la créatrice de la robe, Aurora James, une femme noire immigrée, dit-elle. Message politique, donc, le message est plus mystérieux. En revanche, pour la star Kim Kardashian dont vous parliez, toute de noir vêtue, visage cagoulé, mains gantées, collants et bottes à talons, une robe de la maison Balenciaga qui pourrait vouloir démontrer la stature de Kim Kardashian, une star qui n'a plus besoin de montrer son visage pour être reconnue, sa silhouette suffit. La robe a suscité de nombreux détournements sur les réseaux sociaux, certains l'ont comparée à des créatures des ténèbres de Harry Potter ou aux extraterrestres d'Alien. En tout cas, elle est l'œuvre de Demna Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga, né en Géorgie, qui a fui la guerre civile enfant. Il avait déjà habillé la star d'une combinaison de cuir noir façon sadomaso ces derniers jours. Kim Kardashian, elle, s'est contentée d'une phrase publiée sur les réseaux sociaux. Qu'y a-t-il de plus américain que de porter un t-shirt des pieds à la tête? Question bien énigmatique.
Merci Rémi Branquette. Au loin des États-Unis, voici le discours sur l'état de l'Union version européenne. Chaque année, la présidente de la Commission se présente devant le Parlement européen à Strasbourg. Bonjour Angélique Boin. Angélique, en direct de Strasbourg, parmi les points marquants dans le discours d'Ursula von der Leyen cette année, elle défend l'action de la Commission pendant la pandémie.
Oui, 42 pays reconnaissent notre passe sanitaire. Plus de 7 Européens sur 10 sont vaccinés. À la tribune, la présidente de la Commission a défendu avec beaucoup de vigueur son bilan.
Une pandémie, c'est un marathon, pas un sprint. Nous avons suivi la science. Nous avons livré l'Europe. On a livré le reste du monde. Nous avons fait ce qu'il fallait faire, car on l'a fait à la manière européenne et ça a marché.
Et en réponse à ceux qui estiment que l'Union n'a pas assez partagé, elle annonce 200 millions de doses de vaccins supplémentaires pour les pays pauvres. Ursula von der Leyen a aussi salué la reprise économique, mais admis, sans insister, que l'on n'échappera pas à un débat sur le niveau de la dette, hein, sujet miné, Bruno, à l'approche des élections allemandes. Il faut par ailleurs, dit-elle, investir massivement à 27 dans la production de puces électroniques pour assurer notre transition numérique et notre autonomie, un peu comme on l'a fait, dit-elle, avec le satellite européen Galileo. Pacte vert, défense européenne, état de droit. Face aux eurodéputés, la présidente a décliné son programme. Elle propose par exemple d'étendre aussi le dispositif Erasmus aux plus précaires.
Nous devons encourager ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ne suivent ni enseignement ni formation. Nous allons offrir un nouveau programme. ALMA offrira à ces jeunes la possibilité d'une expérience professionnelle temporaire dans un autre État membre.
Elle annonce enfin de nouvelles lois, l'une sur les violences faites aux femmes, l'autre sur la liberté des médias, des annonces très applaudies par les eurodéputés.
Angélique Boin en direct de Bruxelles à propos d'économie et de la hausse du SMIC dont je vous parlais au début de ce journal. Première hausse en 10 ans, disais-je, en cours d'année évidemment, puisqu'il y a une augmentation automatique en début d'année le reste du temps. Nous allons au procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
En direct du palais de justice de l'île de la Cité, l'événement du jour, c'est que le président de la cour d'assises, Jean-Louis Périès, donne la parole aux 14 accusés présents et dans les minutes qui viennent de se passer à Salah Abdeslam.
Oui, les 14 accusés se sont tous exprimés un à un. Alors, le président a choisi d'inverser le rôle du tour de parole et c'est donc en dernier que Salah Abdeslam vient à l'instant de s'exprimer. Une déclaration qui a complètement détonné avec celle de ses 13 autres co-accusés qui, la plupart, ont mis au maximum ces attentats à distance, les condamnant avec fermeté. Lui, Salah Abdeslam, a d'emblée annoncé en se levant dans le box « Je serai peut-être un peu plus long que les autres, mais je voudrais faire une précision », a-t-il indiqué donc le principal accusé de ce procès, en référence au témoignage de la juge d'instruction belge Isabelle Panou hier. Il indique ainsi, elle a parlé de terrorisme, de djihadisme, de radicalisme. En réalité, a indiqué Salah Abdeslam à la barre, il ne s'agit que de l'islam authentique et ces radicaux que vous appelez comme cela sont des musulmans. Voilà, c'était les premiers mots de Salah Abdeslam qui ensuite a donné des motivations sur ces attentats qu'il revendique, hein, puisqu'il dit clairement, on a combattu la France, on a attaqué la France, on a visé des civils. En réalité, a-t-il précisé, on n'a rien de personnel à leur égard. Quand on a visé ces gens-là, on a visé la France et rien d'autre. Le reste est une déclaration plus politique en réaction aux propos et surtout à la décision, selon lui, de François Hollande d'avoir attaqué des enfants, des femmes en Syrie. Voilà comment Salah Abdeslam s'est positionné à l'instant à la barre. L'audience vient maintenant d'être suspendue et on va continuer l'audience plus normalement, si on peut dire, avec les enquêteurs qui doivent être entendus dans la foulée.
Merci Charlotte Piré pour toutes ces précisions sur cette audience et les minutes importantes qui viennent de se passer. Le siège parisien de la société Lagardère perquisitionné ce matin, c'est une information judiciaire ouverte en avril, différent entre le groupe et son actionnaire, le fonds Amber Capital. Pas de pitié pour Barcelone. Dans la première grande affiche de la saison en Ligue des Champions de football, le Bayern Munich a sèchement battu le club espagnol 3-0 en Catalogne, qui plus est hier soir. À l'intersaison, le Barça a perdu sa star, Messi, qui a filé au PSG. Et pour l'entrée de Paris dans la grande compétition européenne ce soir, eh bien, la triplette de stars devrait être alignée à Bruges. Messi, Neymar, Mbappé, Alexandre Vaux.
Souvenez-vous des Galactiques du Real Madrid de Zinedine Zidane au début des années 2000, puis la MSN, Messi, Suarez, Neymar, jusqu'au transfert du Brésilien de Barcelone au PSG en 2017. Neymar et Mbappé, rejoints cet été par le meilleur joueur du monde, désormais avec Lionel Messi, l'attente n'a jamais été aussi forte à Paris, mais le plus dur commence, prévient l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Le PSG n'est pas encore une équipe. Pour le moment, on est un club qui a beaucoup recruté des joueurs très importants, très fort, mais on doit maintenant se transformer en une équipe comme Chelsea la saison dernière. C'est notre défi, devenir une équipe solide pour atteindre nos objectifs.
Car Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, déjà rebaptisés d'ailleurs la MNM, n'ont encore jamais joué ensemble. Et puis Mauricio Pochettino sait qu'en alignant ces trois génies offensifs, sa formation va pencher vers l'avant. Au technicien argentin donc de trouver le bon équilibre dans sa composition d'équipe. Le mercato historique du PSG cet été va l'aider. Avec les arrivées d'Achraf Hakimi et Jorginho Wijnaldum, Sergio Ramos étant encore blessé.
Merci Alexandre Vaux, coup d'envoi 21h hier, 0-0 entre Lille et Wolfsburg, et le Manchester United de Pogba et Ronaldo s'est incliné 2-1 à Berne. Nous en venons à notre plaisir du mercredi, la sélection cinéma de Corinne Pellissier. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Avec l'incontournable de la semaine, le remake de Dune pour les fans de science-fiction. Ceux qui n'ont pas lu le best-seller auront droit ce soir à un cours de rattrapage 18h50, Dune pour les nuls. Vous nous direz aussi pourquoi le film est réussi. En attendant, d'abord, votre coup de cœur, c'est Le genou d'Aed, Nadav Lapide, prix du jury au dernier festival de Cannes.
Voilà, avec en toile de fond la musique des Guns N' Roses pour donner le ton très rageur de ce quatrième long métrage. Une mise en scène soignée, radicale et comme toujours chez Nadav Lapide, une critique en règle du système et de la société israélienne. Le genou d'Aed, c'est un peu comme un coup de poing dans la figure pour nous réveiller, nous faire prendre conscience de ce qu'est la censure aujourd'hui. Une histoire inspirée du vécu du réalisateur qui reflète bien tout le climat de tension auquel ont été confrontés de nombreux artistes depuis 10 ans sous le gouvernement de Netanyahou. Tout part dans l'histoire d'un formulaire que le ministère de la Culture impose en amont de conférences ou de rencontres avec le public, avec une liste de thèmes que vous avez le droit ou non d'aborder. Le résultat à l'écran, eh bien, c'est le film d'un homme en colère, film très noir dans ses propos, magnifique dans sa mise en scène. Le comédien Avshalom Polak est d'ailleurs lui aussi formidable en dynamiteur du système. Et si vous n'aimez pas les Guns, eh bien il y a aussi Vanessa Paradis sur la BO.
Les Guns N' Roses, film France Inter, Le genou d'Aed donc.
Ouais Michel, c'est moi, c'est Jean-Louis. Tu peux venir à la maison s'il te plaît? Non, je me sens pas bien. Écoute mon cœur.
Je t'écoute.
Tout autre chose, L'origine du monde, c'est une première derrière la caméra pour le comédien Laurent Lafitte. Histoire d'un homme dont le cœur s'est arrêté de battre.
Ah bah oui, complètement fou. Voilà, entre une vie de couple un peu trop plan-plan, une réussite matérielle qu'il a du mal à assumer, Laurent Lafitte, dont le rôle de Jean-Louis ne va pas bien. Dépression, crise d'angoisse, burn-out, on ne sait pas trop. Il est vivant mais son cœur ne bat plus. Pour guérir, il va devoir prendre en photo le sexe de sa mère qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Voilà, c'est saugrenu, c'est assez clivant, mais si vous aimez l'humour absurde, les vannes grinçantes, ça pourrait vous plaire, avec Laurent Lafitte, Vincent Macaigne et Nicole Garcia dans le rôle d'une naturopathe gourou étonnante.
Dernier choix, c'est un documentaire autour d'un fait divers en Roumanie, l'affaire collective.
Voilà, du nom de cette boîte de nuit à Bucarest qui avait brûlé en 2015 lors d'un concert de métal, 27 morts, 180 blessés et un scandale d'État au moment de soigner les survivants gravement brûlés. Une quarantaine d'entre eux avaient succombé à une vague d'infection dans des conditions d'agonie qui sont souvent difficiles à soutenir, qu'on nous montre dans ce documentaire qui suit le travail des enquêteurs. Deux journalistes sportifs qui s'étaient saisis de l'affaire, ils ont montré les négligences, les pots de vin, les produits désinfectants, parfois dilués jusqu'à 10 fois la normale. Bref, c'est édifiant. Cette affaire collective avait même conduit à l'époque la démission du gouvernement roumain.
Et ça s'appelle donc l'affaire collective, que vous conseille Corinne Pellissier, tout comme L'origine du monde et Le genou d'Aed. Et puis Dune, vous le conseillez aussi?
Ah oui, allez voir Dune sur le plus grand écran possible.
C'est noté, merci beaucoup, à mercredi prochain. Dans un instant, la météo, puis notre invité, le maire de Grigny, Philippe Rio.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Magnétique et fascinant. Avec Clara et le Soleil, Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature, nous offre un superbe roman d'amitié. À 14 ans, Josie est livrée à elle-même. Pour lui tenir compagnie, ses parents lui offrent Clara, une amie artificielle. Lorsque Clara arrive chez la jeune fille, elle comprend qu'un secret pèse sur la famille et que Josie est en danger. Jusqu'où ira-t-elle pour la sauver ? Laissez-vous éblouir par Clara et le Soleil, une formidable leçon d'humanité, signée Kazuo Ishiguro. Un roman Gallimard.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Sébastien, vigilance orange sur 5 départements.
Oui, le pays reste dans le même contexte, hein, de remontée d'air chaud et humide, favorisant les développements d'averses et d'orages. Cet après-midi, les averses orageuses concerneront une large bande entre la Gironde, les Pyrénées, le Golfe du Lion, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'aux frontières allemandes. Mais c'est la zone entre le Languedoc et les Alpes qui est particulièrement sous surveillance, puisqu'on attend des averses plus nombreuses et plus actives, avec également des risques de cumul abondants. Météo France a placé l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le Gard et l'Hérault pour ces fortes pluies, avec parfois plus de 100-120 mm d'eau sur l'épisode, ce qui correspond à 100-120 litres d'eau par mètre carré. Soyez également prudents près des cours d'eau qui peuvent réagir subitement avec ces pluies intenses. Sur le Gard, d'ailleurs, le Vistre est toujours à des niveaux très élevés. Les services de Vigicru maintiennent donc la vigilance orange au cru. Et puis ce sera quand même un peu plus calme ailleurs. Quelques averses vont quand même circuler cet après-midi sur la Provence, la Corse et entre l'embouchure de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Hauts-de-France et aux Ardennes. Les éclaircies seront quand même assez timides, voire fugaces. Pour trouver un soleil plus vaillant, direction l'extrême nord-ouest avec un après-midi plus lumineux entre la Bretagne et les côtes de la Normandie. Pour les températures, prévoyez 18 degrés à Cherbourg jusqu'à 30 degrés à Marseille avec 22 degrés pour Paris et Dijon. Ambiance plus chaude à Ajaccio avec jusqu'à 33 degrés.
Sébastien Léas, Météo France, notre invité à présent, le meilleur maire du monde.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Oui, parce que le meilleur maire du monde est en France. Philippe Rio, élu communiste de la ville de Grigny, dans l'Essonne, à 25 km de Paris, a reçu cette distinction hier. Elle est attribuée tous les deux ans par une fondation britannique à but non lucratif. Il partage le titre avec le maire de Rotterdam. Un autre Français, celui de Saint-Omer, était parmi les nominés. C'est avant tout pour son action dans la lutte contre la pauvreté que le premier élu de 47 ans est récompensé. Grigny, 30 000 habitants, taux de pauvreté de près de 50%. C'est un concentré de l'histoire de l'immigration en France. Deux très grands ensembles ont été installés dans les années 60, la Grande Borne, Grigny 2, 89 nationalités dans la ville, des tensions récurrentes. À Grigny 2, au début du mois, la police a essuyé jets de projectiles et tirs de mortier. C'est donc un urgentiste de la République, comme il se présente parfois, qui est au micro du 13-14 jusqu'à 13h45, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Bonjour Philippe Rio.
Bonjour.
Un mot de réaction à cette récompense. Vous dites avoir hésité à participer au concours et finalement accepté.
Oui, d'abord c'était une surprise d'être présélectionné. Nous n'avons pas été candidats. Et puis une récompense. Je ne suis pas personnellement fan des honneurs et des récompenses. Et surtout que c'est une œuvre collective. Une ville, comme dans toutes les villes de France et du monde entier, il y a peut-être un chef d'orchestre, mais il faut des solistes remarquables. Et ça vient récompenser tout ce travail collectif que nous menons depuis tant d'années avec les agents municipaux, les responsables associatifs, les citoyens engagés. Donc voilà, c'est une belle reconnaissance pour tout ce collectif. Et puis pour l'image de la ville, c'est pas plus mal.
Alors comment administrer une des villes les plus pauvres de France parmi les choses qui ont été mises en place à la rentrée? Alors c'est aussi dans le plan du gouvernement, plan pauvreté, les petits déjeuners gratuits dans les écoles maternelles. Quel sens à cette mesure? Quel sens y mettez-vous?
Celui de la réussite éducative. Grigny, c'est 50% des élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme. Les niveaux sont extrêmement bas Et donc, il y a eu quelques années un électrochoc et nous créons les conditions, la ville mais aussi l'éducation nationale, pour améliorer ce niveau d'études parce que c'est extrêmement important pour construire des citoyens et pour l'insertion professionnelle. Mmh. Et donc, on s'est aperçu par les enseignants mais aussi par des parents qui nous le signifiaient, qu'il y avait des difficultés sur le petit déjeuner, que des enfants étaient déconcentrés et tout le monde le comprend. Travailler le ventre vide, c'est pas possible. Mmh. Et apprendre à l'école, encore moins. Et les premières années, c'est encore plus difficile. Donc, on a mis en place ça. On a obtenu du gouvernement, après quelques quand même bras de fer, que ça soit complètement appliqué pour tous les élèves de maternelle. 15 écoles, 82 classes, plus de 1800 élèves. Et on va l'expérimenter pour les écoles élémentaires. Et c'est un franc succès.
Mais ça représente quel coût pour la collectivité ?
Alors c'est un coût qui est aujourd'hui remboursé par l'éducation nationale. On met bien évidemment du personnel. Ouais. On est à peu près à 1,30 centimes d'euros, pour être très précis, le repas.
Quel a été l'effet de la crise sanitaire dans une ville comme Grigny, Philippe Rio ?
À Grigny, comme dans beaucoup de villes fragiles et déjà vulnérables, il y a eu un coup d'accélérateur et un coup de massue de la crise Covid, bien évidemment d'un point de vue sanitaire, puisqu'on a été les territoires les plus frappés, mais la crise sociale a été rapide, subite et massive, avec quelque chose que nous n'avions pas vu arriver, la crise alimentaire, qui a explosé en 2 semaines, pas plus, après le premier confinement.
Et depuis ?
Et depuis, on remonte la pente tout doucement. Les travailleurs pauvres sont toujours des travailleurs pauvres. Les retraités pauvres sont toujours aussi pauvres. Mais on a su, parce qu'on a peut-être dans notre histoire l'habitude de gérer des territoires en crise, parce que la crise sociale avant Covid existait, la crise économique aussi, la crise du logement aussi, la crise sanitaire, puisqu'on est très éloigné de l'offre de soins, nous a fait développer peut-être de manière plus réactive, plus ingénieuse, un certain nombre de mesures. On a beaucoup échangé entre collègues maires, je le dis, de droite comme de gauche, qui vivons les mêmes situations, pour nous adapter. Et donc, on a créé des solidarités nouvelles. On a fait évoluer en très peu de temps le service public local et les relations avec nos usagers et puis avec le monde associatif. Ça a été un booster positif sur un certain nombre d'aspects.
Est-ce que la vaccination marche bien à Grigny ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour la booster ?
Malheureusement, nous n'avons pas eu le choix, n'a pas été fait d'avoir un centre de vaccination sur Grigny.
Oui.
Chose que nous demandions, puisque nous savions que la difficulté allait être dans les territoires comme les nôtres.
D'ailleurs, le taux de vaccination est de combien à peu près ?
Le taux de vaccination est l'un des plus bas de l'Essonne et donc de France. Voilà, comme dans tous les quartiers populaires. Donc là aussi, on a fait preuve d'inventivité. On a des opérations coup de poing quasiment tous les 2 ou 3 dimanches pour faire des opérations de vaccination sur place à Grigny avec les professionnels de santé, l'Agence régionale de santé. Ça marche plutôt bien. On en fait entre 750 et 800 par dimanche. Et on a d'ailleurs dimanche prochain une journée de vaccination.
Et qu'est-ce qui coince ?
Quand je parlais tout à l'heure de la distance vis-à-vis des soins, bien souvent nos villes et nos territoires sont des déserts médicaux. Et donc on a abandonné le rapport aux soins et à la santé. Et donc il faut développer du aller vers. Aujourd'hui, y compris la vaccination, il y a la fracture numérique, il y a l'isolement des personnes âgées, il y a celles et ceux qui maîtrisent mal la langue française. Et pour toutes ces raisons, on est éloigné du soin. Quand il n'y a pas de médecin, quartier de la Grande Borne, il y a encore 2 ans, il n'y avait pas de médecin généraliste pour un quartier qui faisait 11 000 habitants. Et donc, c'était le système D et on ne se soignait pas. Donc, il faut réhabituer les gens à ça.
Et quand vous dites que c'est un des plus bas de l'Essonne, c'est combien le taux de vaccination à Grigny ?
Je vais vous dire des bêtises, je vais dire joker.
Bon, très bien, je note le joker. Si vous retrouvez le chiffre, je suis preneur d'ici à la fin de l'interview. On va écouter Lynn qui est au standard avec nous. Bonjour Lynn.
Oui, bonjour, je suis Lynn de Vénissieux. Donc ma question c'est, monsieur Rio, vous défendez les valeurs suivantes: la dignité humaine, le respect d'autrui, la tolérance, la paix et la liberté. Je voulais connaître les mesures concrètes prises dans votre commune en ce sens.
Alors, merci beaucoup Lynn pour cette question. Une mesure dont vous vous dites qu'elle a peut-être joué dans le prix que vous avez reçu hier, Philippe Rio.
Les petits déjeuners pour les enfants, pour la réussite des enfants. Parce que celles et ceux qui sont le plus touchés par la pauvreté, tout le monde le sait, Ce sont les femmes seules avec enfants. À Grigny, 30% de familles monoparentales. D'ailleurs, avec Vénissieux, on partage beaucoup de combats en commun, parce que ça fait partie des villes également populaires. C'est peut-être celui-ci parce que, y compris le repas du matin, est un temps pédagogique que les professionnels ont su créer, qui est absolument magnifique.
Alors moi, je voulais insister sur quelques autres mesures en préparant cette interview avec Claire Chaudière, qui connaît bien votre action. Elle me dit notamment que vous avez mené pendant le Covid un travail de fourmi avec les bailleurs sociaux pour repérer ceux qui étaient en train de tomber dans une plus grande pauvreté encore et qui n'allaient pas payer leur loyer. Comment est-ce qu'on mène ce travail pour repérer cage d'escalier par cage d'escalier, si j'ose dire ?
La proximité. Mmh. C'est-à-dire qu'on maille le territoire de personnes ressources, et là, c'est la raison pour laquelle, je réinsiste, la récompense, elle est d'abord collective, parce que si on a pointé notre action pendant le Covid, c'est que la communauté humaine de cette ville, comme dans d'autres endroits d'ailleurs, s'est hyper mobilisée. Il y a eu un vent de solidarité absolument remarquable. Des gens se sont découverts. J'ai découvert des gens que je croyais très individualistes et qui, en fait, se sont révélés, en cas de crise, très humanistes et la joie en collective. C'est tout ça, avec les réseaux associatifs, avec les parents d'élèves qui ont été, notamment à Grigny, il n'y a pas eu de décrochage scolaire. L'éducation nationale nous a fait ce rapport. On est d'une seule ville dans l'Essonne où il y a eu zéro décrochage scolaire pendant la continuité pédagogique du premier confinement. Tout ça, c'est un maillage. Les enseignants nous ont fait remonter les familles qui avaient des difficultés alimentaires. Donc voilà, on est passé à une autre étape où tout le monde se la joue collective et solidaire.
Alors Philippe Rieu, je voudrais vous faire écouter le son de Nadia, qui est une des habitantes de la ville, mère d'une petite fille de 3 ans. C'est Rémi Brancato qui l'a rencontrée hier soir en passant à Grigny. Elle travaille dans la logistique. Elle est propriétaire d'un logement à Grigny 2. Elle estime que les conditions de vie dans la ville sont mauvaises. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle va dire maintenant, vous allez voir.
Si j'ai possibilité de partir, je partirai. Et même pour les écoles, moi, ma fille, je la laisse à la maternelle. Et quand elle sera un peu plus grande, je la mettrai ailleurs. Ah oui. Bah, je partirai. Parce que le niveau, il est pas là, quoi. La ville, avec le tramway, peut-être que ça va changer, j'espère. Hein.
Quels que soient les efforts faits, une partie des habitants, s'ils peuvent partir, s'en vont, Philippe Rieu.
C'est pour ça que ce prix n'est pas une fin en soi. Nous savons, et nous sommes extrêmement conscients des défis majeurs que nous avons. Madame Nadia a raison. L'attractivité éducative, le rôle de l'éducation nationale. Et si je loue à longueur de journée l'engagement des enseignants, mais il faut faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on veut peser dans le débat présidentiel avec la fenêtre médiatique qui m'est offerte de dire l'égalité territoriale dans ce pays doit être un sujet de cette élection. Et donc, madame a raison, on doit faire plus et mieux pour l'école. Et donc ça, c'est ce partenariat nouveau renforcé éducation nationale ville. Il doit y avoir plus de moyens pour que les parents disent « Étudier à Grigny, c'est une chance. Je vous ai donné un chiffre, 50% des élèves sortent du système scolaire sans diplôme. Bah, » à cause du maire. C'est pas les agents de la mairie qui sont responsables. C'est bien un problème de notre pays d'éducation nationale. On a pris le bon chemin, ça prend du temps, mais madame a raison.
Et il y a ce témoignage dans la presse ce matin d'une autre habitante de Grigny, Colette. Pour l'instant, je dirais pas à propos de Philippe Rieu que c'est le meilleur maire du monde. Il le sera quand on aura un supermarché. Il n'y a pas de supermarché à Grigny et il n'y a pas de commissariat de police.
Colette, je l'adore, parce que Colette, c'est effectivement la réponse des Grignois. C'est-à-dire, ils sont exigeants et ils ont raison. Oui, nous n'avons pas de supermarché. Ça fait un an qu'on bataille avec un supermarché d'une ville d'à côté qui nous empêche l'installation d'un supermarché.
Mais quoi, pour dire les choses, les supermarchés ne veulent pas s'installer à Grigny pour des questions de sécurité.
Non, c'est bon. Ça, c'était le passé. Le présent aujourd'hui, c'est qu'il y a un permis de construire qui est délivré, des autorisations commerciales, et nous sommes au tribunal parce que, allez, je vais le dire, le groupe Leclerc empêche au marché frais de s'installer à Grigny. Donc, ça, c'est la triste réalité. On perd du temps, on va perdre un an dans cette affaire. Mais Colette, il y aura un supermarché à Grigny.
Bon, si Colette nous écoute...
Et en plus pas cher, et ça sera moins cher.
Pas de commissariat de police, pardon, mais alors que début septembre, il y a encore eu des tensions entre police et une partie des habitants, comment se fait-il qu'il n'y a pas de commissariat ? Il ne peut pas y avoir un commissariat ouvert dans votre ville ?
C'est un scandale d'État. Pendant 15 ans, nous avons milité, pétitionné pour avoir un commissariat. Il a ouvert 2 ans, en 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, au nom de la réduction des dépenses publiques, ce commissariat a été fermé. Nous voulons de la sécurité et de la tranquillité publique dans nos villes.
Mais pardon, donc, aller au bout de la question, c'est parce que les policiers ne peuvent pas rester à Grigny.
Non, ce n'est pas vrai. Ils interviennent constamment, tous les jours, ils sont présents. Le bâtiment est présent. Il est occupé d'ailleurs par des services départementaux de la police nationale. Ne laissez pas croire, monsieur, que la police ne peut pas intervenir dans les quartiers. C'est faux, ils interviennent. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où ça se passe très très bien et des jours, effectivement, où c'est extrêmement difficile. Mais la police vient, mais il faudrait qu'elle vienne plus souvent, plus en nombre, mieux formée. Il y a des fonctionnaires de police qui sont courageux et qui font extrêmement bien leur boulot.
Quand Emmanuel Macron, hier à Roubaix, veut doubler d'ici à 10 ans la présence de policiers sur le terrain, un, est-ce que vous y croyez? Deux, est-ce que c'est la bonne piste?
Je ne suis pas naïf sur le temps politique dans lequel nous sommes. Et deux, je veux y croire et j'y croirai quand le commissariat de Grigny sera réouvert.
Voilà, ça fait le lien entre les deux questions. Une question politique à propos des temps politiques, campagne électorale, un candidat communiste. Vous le soutenez pleinement? Il y a de la place pour un candidat communiste dans une campagne en 2022 à 1,5% dans les sondages pour l'instant?
Mon engagement pour la campagne présidentielle sera celle des quartiers populaires et de l'égalité territoriale. Aujourd'hui, je suis membre d'un collectif d'élus locaux qui, depuis l'appel de Grigny en octobre 2017, et nous allons fêter les 4 ans et nous allons mener une initiative le 16 octobre prochain pour remettre la lumière dans le débat politique sur cette question-là.
Pardon, mais donc, si je suis Fabien Roussel, je trouve pas votre réponse très claire. Vous soutenez le candidat communiste ou pas?
Écoutez, pour l'instant, je ne me prononce pas, monsieur. Bon. Voilà. J'ai eu Fabien Roussel qui m'a appelé au téléphone. On se connaît, on a déjà longuement échangé. Aujourd'hui, moi, je suis dans un collectif pluriel.
Merci.
Et je respecte ce collectif.
Merci, Philippe Rio, d'avoir répondu à nos questions. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Fabien Roussel, pardon.
Aujourd'hui, un peintre extravagant et des mécènes compréhensifs.
Soutine et les Castins.
Et c'est une histoire passionnante, nous verrons cela. Le feuilleton, une semaine sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame. Aujourd'hui, un charpentier. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Il incarne actuellement Sigmund Freud, rien que ça, dans la pièce Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt au Théâtre Rive Gauche à Paris. Le comédien et réalisateur Sam Karman est à votre micro le temps d'une chanson.
Il écoute beaucoup de musique, Sam Karman, du jazz essentiellement. C'est sa compagne qui l'a initié, ils vivent ensemble depuis bientôt 40 ans et le jazz est vraiment la musique qu'il préfère.
Ça veut pas dire que j'aime pas le rock, hein, mais le jazz c'est la subtilité, c'est la finesse, c'est le swing, voilà. Et le swing, c'est la façon dont ça se passe entre les gens. Les gens, ils swingent entre eux ou pas, quoi.
I know somewhere, I know someday, you'll come along, along. No matter when, you'll find the way alone. Over the day, over the night, I think of you, of you.
Pour écouter, quelle est cette chanson, quelle est cette chanteuse, Frédéric?
La chanteuse s'appelle Catherine Olson. Et la chanson Sautrou,
oui.
C'est la chanson du générique de fin du film La Vérité ou Presque, le troisième film réalisé par Sam Karman.
Le fil rouge de toute cette histoire, c'était l'histoire d'une chanteuse de jazz méconnue des années 60. Donc la part de la musique était très importante dans ce film et c'était exclusivement du jazz. Pour ce troisième film, j'ai fait appel à Pierre Adnaud qui avait composé les musiques originales de mes deux premiers films. Et il fallait trouver cette Pauline Anderton, puisque c'est le nom du personnage. Et il fallait trouver une personne qui allait écrire les paroles, donc je voulais qu'elles soient en rapport avec l'histoire, évidemment. Mais que ça sonne comme des standards. Qu'on se dise, mais j'ai déjà entendu cette chanson. Pardon, mais ça me rappelle, je ne sais pas. Mais enfin, c'est vachement bien, quoi. Bon. Et puis, il fallait trouver l'interprète. Et puis, il fallait trouver la voix de l'interprète si l'interprète et la voix étaient différentes. Il se trouve que Catherine Olson, Vinfen, Karman, donc on aura compris, ma compagne à la ville, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle s'adonnait au chant et au jazz. Et évidemment, à un moment donné, je me suis dit, mais ça s'impose totalement, c'est Catherine qui va faire tout ça. Sauf que, moi je suis pas objectif, j'aime cette femme, donc bon, elle avait jamais tourné devant une caméra, jamais enregistré d'album. Et puis, quand même, j'étais pas tout seul à la trouver bien, à commencer par Pierre Arnaud, qui me fait, mais bien sûr, évidemment.
Catherine Olson a donc incarné Pauline Anderton, chanteuse de jazz fictive des années 60, dans la vérité ou presque. Elle a donc chanté et écrit les paroles des chansons du film, dont celle-ci, que son compagnon prend toujours un intense plaisir à écouter.
C'est une chanson très sensuelle pour moi, parce qu'elle est construite comme un moment d'amour, physique j'entends, puisqu'elle susurre, puis elle monte, les cordes arrivent, nous emmènent comme ça dans un romantisme absolu. Il y a l'acmé, et puis tout d'un coup, le piano qui prend la place et qui nous recalme, et qui redescend dans l'intensité, et qui disparaît, et simplement avec la voix qui conclut. Je trouve ça très beau. Voilà, c'est une petite et brève histoire d'amour.
You'll take my hand until the end. We'll feel as if it's new. If it's a dream for me, it seems so true.
So True par Catherine Olson, la compagne de Sam Karman. C'était donc, Frédéric, le choix de Sam Karman.
Que l'on peut retrouver sur la scène du théâtre Rive Gauche à Paris dans Le Visiteur, la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt.
À demain.
À demain.
Dans le feuilleton, après des échafaudeurs et des cordistes, un charpentier. Troisième métier incontournable sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris que nous parcourons cette semaine. Le week-end prochain, l'établissement public en charge de la restauration présentera tous ses métiers au public sur le parvis lors des journées du patrimoine. Une semaine dans la vie de ces ouvriers et artisans, donc 2 ans et demi après l'incendie. Et pour cet épisode 3, Rémi Brancato, vous êtes très haut.
Donc on se retrouve sur un échafaudage, sur la toiture de Notre-Dame, en compagnie d'un charpentier. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Yves Massel, charpentier chez Le Bras Frère. Depuis le lendemain de l'incendie, on est là.
Il y a ici des éléments de charpente sous nos yeux. À quoi vont-ils servir ?
Eh bien là, actuellement, on est en train de d'étancher le bâtiment lui-même, le mettre hors d'eau tout simplement. Donc on est en train de participer à la pose de parapluie.
Je vais vous demander de vous retourner. De regarder de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ici sous les yeux ? Ce sont les arcs-boutants.
Les arcs-boutants, voilà. C'est les premiers travaux qu'on a effectués il y a bientôt 2 ans et demi. Ces arcs-boutants en bois sont là pour maintenir les arcs-boutants, eux, en pierre, qui menaçaient à l'époque de s'effondrer.
On va entrer dans la cathédrale pour voir un travail plus colossal qui a été réalisé ces derniers mois. Pour ça, il nous faut reprendre l'ascenseur, j'imagine.
Ouais.
Donc là, l'ascenseur, on va prendre un étage intermédiaire, en quelque sorte.
Voilà, à mi-hauteur. On va rentrer à mi-hauteur, on va rentrer directement dans la nef.
Il faut emprunter plusieurs escaliers sur cette forêt d'échafaudage. Là, Yves, on se trouve directement sous la voûte.
Voilà, on a rehaussé un plancher pour poser nos cintres.
Qui sont venus s'assembler pour consolider ces voûtes qui avaient été fragilisées par l'incendie.
C'est ça même. Par endroit, on peut voir qu'il y a encore des cicatrices, donc il y a des gros trous de pièces de bois qui ont passé au travers. Si on peut s'avancer un petit peu.
Allons-y. Les cintres comme ceux-là, c'est des cintres qui font quelle taille ?
Les dimensions, le poids, la longueur, largeur, épaisseur, c'est complètement différent. Il n'y a pas deux cintres pareils. À une époque, ils n'étaient peut-être pas aussi précis qu'on peut l'être maintenant. Ils ne travaillaient pas souvent avec le niveau et le fil à plomb. Donc, ils travaillaient un peu à l'œil. Ils le faisaient très, très bien, mais ce n'était pas du tout régulier. Et après, il y a eu aussi des phénomènes du temps aussi qui a fait que certaines voûtes ont pu s'affaisser. On n'a jamais quelque chose de régulier. Il faut faire du cas par cas. Nous, on est arrivé le lendemain de l'incendie. On avait déjà travaillé sur cette cathédrale, on connaissait le chantier. Quand on est arrivé, nous, il y avait encore des pompiers qui étaient là. Il y avait encore des bois qui fumaient, il y avait encore quelques foyers encore d'allumés.
Est-ce qu'à ce moment-là, on imagine l'ampleur du chantier à venir ?
Non. On ne s'attendait pas, franchement, à 2 ans et demi être encore là. On a fait pas mal de chantiers. On a fait le Panthéon, on a fait le Palais de l'Allemagne, on a fait pas mal de trucs. Notre-Dame, c'est un monument qui est sacré, quoi. Je veux dire, il est important aux yeux de tout le monde. Pratiquement tout le monde est venu à Notre-Dame avant l'incendie. J'ai 35 ans de métier. Faire des choses comme on a fait là, je le ferai sans doute plus, moi. Aussi gros, aussi grand, et non, j'en ferai plus comme ça. On a été de découverte en découverte, quoi. Surprise en surprise aussi. Je me souviens, il y avait un filet dans le milieu de la croisée du transept. Un matin, on arrivait, il y avait quelques centimètres de neige.
Sur le filet, à l'intérieur de la cathédrale.
Dans la cathédrale. Ça, c'est un truc qu'on reverra sans doute jamais. Fallait être là le jour-là, quoi. On va dire que c'est une vieille dame. Je pense qu'elle sait qu'on est là pour elle. On a envie qu'elle s'en sorte.
Qu'est-ce qui vous reste à faire ici, à Notre-Dame ?
Moi, il me reste 2-3 bricoles, les parapluies qu'on a vus tout à l'heure, quelques bois à mettre, et après, nous, on aura fini.
On aura sécurisé Notre-Dame.
On aura sauvé la grand-mère.
On a sauvé la grand-mère, voilà. Vous retrouvez le feuilleton avec photo sur franceinter.fr. 5 métiers au chevet de Notre-Dame de Paris. C'est signé Rémi Brancato et la réalisation du feuilleton, c'est Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Au musée de l'Orangerie à Paris s'ouvre aujourd'hui une exposition qui dresse un parallèle entre les peintres russes Chaïm Soutine et américain Wilhelm de Kooning. Un épisode de la vie de Soutine, lui qui est connu pour ses personnages tourmentés ou encore ses bœufs écorchés. Sa rencontre dans les années 20 avec des mécènes extravagants, les Castains.
Rencontre comme le Montparnasse de l'époque le permettait. Soutine, né juif sous l'Empire tsariste, serait arrivé dans la capitale suspendu sous un train. La légende ajoute que, déchargeant du poisson dans les gares la nuit, il en conservait l'odeur le jour. Enfin, la réalité, c'était qu'il se lavait peu. En fait, il avait une dilection pour la viande. Qu'il se faisait livrer par quartier entier dans son atelier, les laissant se décomposer jusqu'à intervention des services d'hygiène. C'est cet homme qui attire soudain Marcelin et Madeleine Castin. Ils habitent une gentilhommière à Lèves, près de Chartres. Madeleine est très amoureuse, Marcelin très infidèle. Un soir, dans un bordel que Marcelin a l'habitude de fréquenter, Madeleine se glisse dans le lit de la belle qu'il allait rejoindre. C'est un couple qui aime les émotions fortes.
Ils ne vont pas être déçus.
Avec Soutine, non, ils se prennent d'une passion exclusive pour lui. Et ils l'installent dans les années 30 des mois durant dans leur château. Leur désir est de le voir peindre avant de l'acheter. Alors il lui fallait de vieilles toiles qu'il attaquait, littéralement. Il utilisait 20, voire 30 pinceaux quand il n'empâtait pas directement la couleur avec ses mains. Cela aurait pu, en effet, être un spectacle. Si Soutine n'avait exigé personne à 30 mètres à la ronde. Et sinon, il prenait ses clics et ses claques et il fuyait.
Oui, ça encore, ça va. Il y avait beaucoup d'autres épisodes.
Oui, un jour, il exigeait le cheval d'une carriole de bohémien qu'il avait aperçu au bout du parc. Un autre, c'était un bœuf écorché. Il lui arrivait d'installer son atelier dans le couloir du rez-de-chaussée, obligeant toute la famille Castin à contourner la maison par l'extérieur pour vaquer à ses occupations. Et la difficulté augmentait quand il se résolvait à offrir sa toile au premier regard. Le risque était grand qu'il la détruisît aussitôt, si Madeleine, par exemple, ne se montrait pas assez admirative. Mais aussi bien si Marcelin tentait une comparaison malvenue avec Renoir, qui ne l'acceptait pas. Et ensuite, quand les Castins proposaient d'acheter la toile, Soutine pouvait exiger qu'il lui en rapporte 2 plus anciennes qu'il déchirait. Enfin, on pouvait commencer à discuter du prix.
Bon, à la fin des années 30, la relation se dégrade, la guerre éloigne des Castins Soutine, qui retrouve le malheur d'être juif et meurt en 43 dans une quasi-clandestinité. Madeleine, elle, ne disparut qu'en 1992, à près de 100 ans.
Son château, réquisitionné par les occupants allemands, elle avait ouvert à Paris, au coin de la rue Bonaparte et de la rue Jacob, une boutique de décoration qui devint fameuse et où on pouvait la visiter presque jusqu'à la fin. Alors elle ne mangeait presque rien, elle buvait surtout de l'eau chaude et elle prétendait que ce régime lui avait permis de conserver une peau étonnamment blanche. Toutefois, les rides ne l'épargnaient pas. Aussi avait-elle pris l'habitude de tendre son visage à l'aide de l'élastique qui retenait le couvre-chef qu'elle ne quittait jamais. Son ami, le photographe aventurier François-Marie Bagnier, l'a représentée ainsi au milieu de son bric-à-brac. Et quand intéressée, Bagnier lui demandait combien de soutines elle possédait. Madeleine répondait « Oh, moins qu'on ne le dit et plus qu'on ne le croit ».
Et l'expo « Soutines de Kooning » ouvre à l'Orangerie à Paris. Le catalogue sera édité par Azan. Merci Jean Lebrun.